Au livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. »
Une fois encore, chers amis, nous voici réunis à l'occasion des fêtes de Pâques cette année, ayant parcouru une étape de plus dans notre course, qui s'achève, nous en sommes chacun persuadés, certains que le Seigneur vient, que nous sommes près du dénouement de la parenthèse de l'Église. Allons donc aborder l'étude des premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Un cher serviteur de Dieu du siècle dernier, à qui l'on avait demandé de traiter ce sujet de l'Apocalypse, et il était doué plus que quiconque pour mener à bien cette étude, n'avait pas souhaité répondre à ce vœu. Sinon, les chapitres 2 et 3, peut-être le chapitre 1er. Il estimait que c'était un danger de se pencher sur la prophétie pour laquelle, disait-il, il ne donnerait pas deux sous. Si elle avait pour but de meubler notre intelligence, de répondre à notre curiosité. Sans doute c'est une preuve évidente, marquante, de la bonté, de la confiance du Seigneur envers nous. N'a pas voulu nous laisser ignorer les choses qui vont arriver dans l'Église, à l'égard de l'Église et du monde, parce que cela sera répété bien des fois. Dans ce livre, l'Église n'est pas vue avec son caractère céleste, avec les privilèges que le sacrificateur étend sur elle en versant l'huile dans la lampe. Elle est vue ici, en même temps que le monde avec lequel elle s'est associée, elle est vue ici comme un organisme objet du jugement de Dieu. Le sacrificateur n'est plus là pour verser l'huile, comme dans les épîtres, où nous sommes appelés « nous ». Béni soit le Dieu et Père de notre, n'en est plus ainsi dans l'Apocalypse. Le prophète Jean est celui à qui des révélations sont données pour d'autres. Le Seigneur ne s'adresse plus à l'Église comme telle. On reviendra souvent sur cette particularité très importante. Mais le Seigneur nous traite comme il en était avec Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et le Seigneur nous a donné ce livre pour nous montrer les choses qui vont arriver bientôt. Le livre se partage en trois parties, indiquées au chapitre 1er, verset 19. Tout d'abord, la gloire du Seigneur présentée devant nous dans ce chapitre, ses droits comme roi des rois, seigneur des seigneurs qui seront bientôt affirmés. Ensuite, les choses qui sont, celles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, c'est-à-dire l'histoire de l'Église comme corps responsable sur la terre qui sera bientôt vomi de la bouche du Seigneur. Et ensuite, les chapitres prophétiques qui commencent avec l'introduction des 4 et 5, la vision céleste que Jean place devant nous. Dès lors, il n'est plus question, depuis le chapitre 4, il n'est plus question de l'Église. C'est un phénomène qui peut paraître curieux, mais il est bien simple de constater que l'Église a fini l'existence, son existence sur la terre, et désormais le champ est ouvert pour la prophétie. On a dit que l'horloge prophétique s'est arrêtée depuis la Pentecôte, elle ne sera reprise, sa marche ne sera reprise qu'au moment où nous allons partir au ciel. Alors Dieu va intervenir dans son gouvernement, non pas seulement dans sa providence comme aujourd'hui, mais dans un gouvernement direct qu'il va déployer à l'égard de l'Église, corps responsable, laissé sur la terre. Église multitude, Église apostate, laissée sur la terre et le monde avec lequel elle s'est associée. Il y a beaucoup de choses à dire en fait d'introduction à l'égard de ce livre. Rien que l'entrée en matière nous donne un aperçu de ce qu'il convient de retenir. Ce n'est plus l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul par exemple, qui nous souhaite la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce langage est tout à fait différent dans l'Apocalypse. Nous avons une révélation. Le mot d'Apocalypse veut dire révélation, chacun le sait. Nous avons donc une révélation de Dieu qu'il donne à Jésus. Et le Seigneur est vu dans une situation plutôt éloignée de Dieu. Ce n'est plus le Fils bien-aimé sur lequel les délices du Père reposent, mais c'est Jésus comme homme à qui Dieu va donner la domination sur le monde entier. Donc nous avons d'abord Dieu qui s'adresse à Jésus. Jésus s'adresse à un ange. L'ange s'adresse à Jean. Et Jean place devant les croyants, vus comme esclaves de Dieu, ce livre tout entier. C'est-à-dire le livre qui comporte la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est plus la parole de Dieu comme nous l'avons dans Jean 1, au commencement était la parole éternelle. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ dans ce livre, c'est tout ce que ce livre contient, tout ce qu'il nous donne à connaître des voies de Dieu à l'égard de l'Église qui sera bientôt l'objet du jugement et du monde qui est ennemi de la grâce de Dieu. Le monde qui comprend évidemment les nations et les Juifs. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous citons 2 Thessaloniciens 1, c'est-à-dire les nations, et ceux qui rejettent le Seigneur Jésus. C'est un verset très important, nous avons donc les deux aspects du jugement de Dieu à l'égard d'une part des nations et à l'égard du peuple d'Israël. Autrement dit, exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, 2 Thessaloniciens 1, verset 8, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une part, nous avons les nations, et d'autre part, nous avons davantage les Juifs. Donc, revenant à notre introduction, nous avons un souhait adressé aux croyants. Vous savez que dans l'Église multitude, on a présenté beaucoup de difficultés à l'égard de la lecture de ce livre, l'estimant très difficile et inopportun. les lecteurs étant en danger de s'embrouiller dans les systèmes, dans les symboles, et perdant leur chemin. Évidemment, si nous n'avions que l'intelligence naturelle de l'homme, si développée qu'elle soit, nous n'irions pas très loin dans la connaissance des pensées de Dieu, fût-ce même dans celles qui sont très simples, les paraboles par exemple. Alors, voici un semeur sorti pour semer. Y a-t-il une figure plus simple que celle-là, et qui peut l'expliquer si le Seigneur, par son esprit, ne la développe devant nous? Donc, nous sommes présentés comme ceux qui sont bien heureux en lisant ce livre et en l'entendant. Donc, nous disons que bien des croyants ont été empêchés de lire ce livre, et il n'est pas étonnant, disait William Kelly, qu'il en soit ainsi, car c'est le livre dans lequel, de la façon la plus claire pourtant, l'Esprit de Dieu nous donne la défaite finale de Satan. Il n'est pas étonnant qu'il ait essayé de masquer ce fait important pour les croyants, pour les délivrer de son emprise et de sa domination et de ses pièges. Bienheureux celui qui lit. Avons donc une introduction très remarquable, en même temps que la grâce qui nous est souhaitée, quel que soit l'état de l'Église et le jugement qui va tomber sur elle, nous avons ce souhait de la part de Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Nous l'avons encore à la fin du livre, donc nous avons un encadrement remarquable. Quel que soit l'état dans lequel se trouve l'Église et les dispositions que Dieu a prises à son égard pour régler ses comptes, de toute manière, pour le fidèle, chers amis, grâce et paix à vous. Nous venons de chanter un cantique qui nous montre que quand les montagnes seraient ébranlées et jetées au cœur des mers, nous n'aurions rien à craindre. Nous nous fondons, quant à notre foi, sur ce qui est immuable et sur celui qui a dit « Moi, je ne change pas ». Bienheureux celui qui dit. En premier chapitre, nous avons un tableau merveilleux de la gloire du Seigneur. Et pour terminer le livre, nous avons donc l'espérance de la venue du Seigneur montrée dans son développement lorsque le Seigneur va jouir de ce privilège extraordinaire que nous attendons avec lui, c'est-à-dire la célébration des noces de l'agneau. Donc un cadre merveilleux, d'un côté la gloire du Seigneur, à la fin du livre, la mention des noces de l'agneau, c'est-à-dire l'espérance chrétienne dans ce qu'elle a de plus précieux pour le cœur. Bienheureux celui qui lit et celui qui entend. Il est bien évident que lorsque ce livre a été écrit à la fin du premier siècle, le nombre d'auditeurs qui pouvaient lire eux-mêmes était relativement réduit, de sorte que bienheureux celui qui lisait la parole de Dieu pour les auditeurs, et ceux qui entendaient, non pas ceux qui s'endormaient à la réunion, bien sûr. Vous savez que, petit trait d'esprit peut-être qui ne manque pas d'être intéressant, vous savez que dans les monastères autrefois, il n'y avait pas beaucoup de lumière sans doute, et il y avait un lecteur de la parole de Dieu, et tous les moines étaient assemblés en cercle, ils écoutaient. Et il y avait un moine qui se promenait avec une petite lanterne, faisait le tour du cercle. Alors, bienheureux celui qui lit, celui qui lisait, et celui qui entend, dit la parole. Alors, quand ce moine passait devant un prêtre qui était endormi, et lui donnait la lanterne, c'était à son tour de faire le tour du cercle pour découvrir un autre dormeur. Bienheureux celui qui lit, et celui qui entend. Évidemment, chers amis, c'est un enseignement très pratique, et cela nous convie à ne pas nous laisser distraire pendant la réunion. Nous sommes ici présents, disent les Corneille, ses amis, nous sommes ici présents pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Si nous écoutons la parole de Dieu, c'était quelque chose quand même de sérieux. Alors, bienheureux celui qui lit, celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Comment pouvons-nous garder les choses qui sont écrites? C'est-à-dire en les appliquant déjà dans notre vie pratique d'assemblée et personnel. Bienheureux celui qui lit, celui qui entend et qui garde les paroles de la prophétie. Dernier mot que je vais dire maintenant, c'est le cadre général de la prophétie. Pourquoi nous est-il donné? Nous avons dit tout à l'heure qu'il n'était pas donné pour meubler notre intelligence et pour satisfaire notre curiosité. La prophétie est tout à fait différente de ce que nous avons comme enseignement de la part de Dieu dans les Épîtres. Dans les Épîtres, nous avons dit, c'est le Seigneur qui s'adresse à nous, le sacrificateur qui a rempli l'huile de la lampe et qui vient pour la bénir, pour prendre soin d'elle. Dans dans les écrits prophétiques, nous n'avons plus ce mode de communication. Là, il s'agit de révélation que le Seigneur donne à son Église. Vous voyez bien la différence entre une révélation et la prophétie. Une révélation, chers amis, a toujours trait à ce qui est le privilège de l'Église, c'est-à-dire un privilège céleste. La prophétie n'est pas pour l'Église. L'Église a un caractère céleste, un appel céleste, et la prophétie ne s'applique nullement au ciel. La prophétie s'applique à un domaine terrestre. De sorte que la première chose que la prophétie a pour but pour nous, c'est de nous intéresser à ce que Dieu va faire dans ce monde. Ce n'est pas à l'autre qu'il a déclaré cela autrefois, mais c'est à Abraham, avec lequel il entretenait des relations très précieuses, vivant avec Abraham comme avec son ami. Première chose, Dieu nous révèle ses pensées. Et deuxième chose, très importante, il nous donne la révélation pour que nous les mettions en pratique. Bienheureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites. Elles ne peuvent pas être gardées, dernière mention que nous allons faire pour le moment de ce qui est devant nous, elles ne peuvent pas être gardées sans que nous rencontrions de la souffrance. Il n'est jamais aisé d'être fidèle au-dedans d'une masse incrédule et apostate. On est marginal, on est rejeté parce qu'on ne partage pas les points de vue de l'ensemble. Ce n'est jamais heureux et facile. Heureux dans les choses du monde, bien sûr, dans les choses de la vie courante, quoique c'est un réel bonheur d'être un témoin du Seigneur, mais il n'est jamais facile d'être un témoin du Seigneur au milieu d'une masse qui le rejette, qui foule aux pieds ses droits. Troisième chose, Seigneur, encourage alors ceux qui souffrent ainsi. Bienheureux celui qui lit, qui prend connaissance des pensées de Dieu, qui a le privilège de saisir que Dieu le considère comme un ami. Deuxième chose, garder les choses qui sont écrites. Et la troisième chose, l'encouragement qui, à travers la prophétie, est donné aux fidèles, lui montrant que ce temps de souffrance, de rejet, ne durera pas toujours, mais qu'il aura part, dans ce jour-là, avec la glorification du Seigneur, vu dans ce livre comme le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur n'a pas perdu ses droits, ils n'ont pas été abrogés, ils ont été suspendus, mais il faut qu'il règne. Et l'apôtre peut dire, eh bien, quand il sera manifesté, nous aussi alors nous serons manifestés avec lui. Quand le Seigneur vient, ce n'est pas un événement qui est connu du monde, qui est marqué par le monde, mais quand le Seigneur apparaît, lors de son apparition, nous serons avec lui. Lorsqu'il sera manifesté en gloire, alors vous aussi, vous serez manifestés en gloire. C'est ce qui concerne l'espérance chrétienne que nous attendons.
Il semble qu'il y a un intérêt particulier à considérer certains points de ce chapitre premier du livre de l'Apocalypse. S'il est vrai que notre attention est attirée du côté des chapitres 2 et 3 de ce livre, il n'en demeure pas moins qu'il y a une édification évidente à être occupée de ce que nous présente le chapitre 1er, de sorte que nous pensons que si un frère ou un autre ont quelques pensées à exprimer encore sur ce chapitre 1er, ce n'est certainement pas du temps perdu, au contraire, ce sera même l'occasion d'un enrichissement pour nos âmes. Nous aimerions souligner un point en rapport avec le sujet général de la prophétie, du livre de l'Apocalypse. Remarquons comment commence ce livre. « Révélation de Jésus-Christ ». Puis un peu plus loin, il est parlé du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses que l'apôtre Jean a vues. Révélation de Jésus-Christ, c'est ce que veut dire le mot grec apocalypse. Et on sait bien que dans beaucoup de langues étrangères, il y a tout simplement le mot révélation et non pas le mot apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est le livre de l'Apocalypse. Est-ce que cela ne nous montre pas, chers amis, l'importance d'un tel livre? Bien souvent, on a dit, chacun pour soi-même, oh, le livre de l'Apocalypse est un livre difficile à comprendre. En tous les cas, depuis le chapitre 4e, véritablement, y a-t-il édification à être occupé d'un tel livre? Eh bien, chers amis, nous ne craignons pas de dire qu'il y a certainement un profit pour nos âmes à être occupés d'un tel livre, et d'une façon générale, la prophétie. D'un tel livre, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que ces mots ne nous parlent pas? Voilà le dernier livre de la parole de Dieu, qui est là la révélation de la personne adorable de Jésus-Christ. Est-ce que nous ne sommes pas amenés à lire un tel livre pour voir précisément ce qui nous est dit d'une telle personne, la révélation qui est faite d'une telle personne tout au cours de ce livre? Les gloires diverses et variées du Seigneur nous sont présentées. On vient de faire allusion à son autorité exprimée par ces mots « Roi des rois, Seigneur des seigneurs » ou aussi « Seigneur des seigneurs, Roi des rois ». Nous avons deux fois cette expression à la fin du livre. Il y a d'autres titres de gloire, celui qui est connu de chacun, l'agneau de Dieu. Ne vaudrait-il pas la peine de lire le livre de l'Apocalypse pour voir ce que l'Esprit de Dieu nous dit de la personne de Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu, terme, gloire, mentionné 28 fois au cours de ce livre? Si nous prenions la peine de lire l'Apocalypse depuis le chapitre 5e jusqu'à la fin, et notez les passages où il nous est parlé de sa gloire comme étant l'agneau de Dieu, vous ne pensez pas que ce serait là un enrichissement certain, évident pour nos âmes? Lire un tel livre qui est la révélation de Jésus-Christ, et en particulier, entre autres, la révélation lui-même comme étant l'agneau de Dieu. Puis il est parlé du témoignage de Jésus-Christ. Quelle force dans cette expression. C'est cela le livre de l'Apocalypse. Témoignage rendu à la personne de Jésus-Christ. Il ne vaut pas la peine de lire le livre de l'Apocalypse avec les secours de l'Esprit de Dieu, cela est évident, non pas avec notre intelligence naturelle, avec nos suppositions faciles dans l'interprétation de la prophétie. Il vaut la peine, chers amis, de lire le livre de l'Apocalypse pour voir ce que l'Esprit de Dieu nous dit de la personne de Jésus-Christ. Ce livre étant la révélation de Jésus-Christ, étant le témoignage de Jésus-Christ. Alors nous sommes invités, nous ne voulons pas répéter ce que notre frère a dit, mais nous voulons simplement, dans le but d'une insistance, au verset 3e, « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il est parlé là de la prophétie dans son sens général. Pas seulement le livre de l'Apocalypse, pas seulement les parties prophétiques des différentes épîtres, mais tout l'ensemble de l'enseignement prophétique de la parole de Dieu. Un de nos frères conducteurs estimait que les deux tiers de la parole de Dieu étaient représentés par la prophétie. La prophétie occupait les deux tiers de la parole de Dieu. Ici, nous sommes exhortés à garder les paroles de la prophétie, donc nous ne pouvons pas laisser de côté la prophétie en pensant que c'est trop difficile, que ce n'est pas actuel, que nous avons besoin d'autre chose. Non, chers amis, il ne faut pas tenir un raisonnement semblable. La prophétie est là, les deux tiers de la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse d'une façon toute particulière, eh bien nous avons à prendre garde aux paroles de la prophétie. Et alors au dernier chapitre, il est précisé, c'est pas la prophétie dans son ensemble, De manière générale, au chapitre 22e, il est alors dit au verset 7, « Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Quelle conclusion admirable, chers amis, nous avons là, concernant le livre de l'Apocalypse. Nous avons à garder pas seulement les paroles de la prophétie dans son sens général, mais les paroles de la prophétie de ce livre-là. De ce livre, dit l'Esprit de Dieu, que je viens de vous communiquer, ce livre de l'Apocalypse. Alors, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Nous sommes invités à lire, chers amis. Et c'est une observation courante. Nos frères, nos sœurs qui sont des enseignants savent mieux que nous-mêmes combien de moins en moins on lit. On n'aime plus lire, il est vrai qu'on a des moyens dits modernes par lesquels on peut enregistrer certaines choses, mais le fait de lire la parole de Dieu est une chose absolument nécessaire. Nous devons continuer, malgré la transformation des coutumes du monde actuel, continuer à lire personnellement la parole de Dieu. Nous lisons un seul passage dans le livre du Deutéronome, concernant ce qui était demandé du roi selon la pensée de Dieu en Israël. En Deutéronome 17, il nous est dit ceci. Trois choses que le roi établi sur le peuple d'Israël ne devait pas faire. Il ne devait pas avoir beaucoup de chevaux, verset 16. Il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Pourquoi, chers amis? Beaucoup de femmes qui seraient des femmes étrangères et qui détourneraient le cœur du roi du culte du vrai Dieu. Et troisièmement, il ne devait pas avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'or. La chose qui fait beaucoup de peine à considérer, c'est que le roi Salomon, le roi qui a été établi en autorité comme aucun autre roi sur le peuple d'Israël, il a manqué sur ces trois points. Beaucoup de chevaux, il est allé en Égypte chercher beaucoup de chevaux, alors que la parole dit qu'il n'y retournera pas en Égypte pour avoir des chevaux. Beaucoup de femmes, beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Le roi Salomon a manqué sur ces trois points. Alors, quels étaient les trois points positifs que devait réaliser le roi sur la pensée de Dieu? Alors, le verset 18 nous le dit. Il arrivera lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Voilà la première chose qu'il veut faire, chers amis, écrire. Et c'est aussi important pour nous. Chacun sait combien le fait d'écrire nous aide à enregistrer telle ou telle vérité. Écrire, pas seulement entendre, pas seulement écouter, mais prendre la peine d'écrire ce qui avait lieu autrefois, on peut le dire intensément dans nos réunions d'assemblée. Un serviteur de Dieu, spécialement doué comme docteur, visitait telle ou telle assemblée, c'était courant de voir une multitude de jeunes prendre un papier, un crayon, prendre des notes. Il écrivait ce qu'il entendait par le moyen d'un serviteur de la part de Dieu. Eh bien voilà, il fallait faire donc écrire une copie de cette loi. Et puis alors, deuxièmement, il l'aura auprès de lui. On pourrait, chers amis, écrire une copie du livre de la loi, par exemple, comme il est dit ici, et puis ensuite cette copie la mettre quelque part dans un tiroir et on n'y pense plus. Ah non, il l'aura toujours près de lui. Mais ça suffit pas, chers amis, avoir une copie de certains passages de la parole de Dieu, les avoir près de soi, sur soi, ça ne suffit pas. Alors, quelle était la troisième chose? Il y lira tous les jours de sa vie. Il y lira, comme il est dit ici, au verset 19, tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Vous voyez, chers amis, que c'était pas tant un amas de connaissances intellectuelles, c'est pas cela. Lire tous les jours de sa vie la parole de Dieu, afin qu'alors il y ait un effet, qu'il y ait une incidence très nette sur notre vie pratique, notre vie avec Dieu, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à garder toutes les paroles de cette loi et ses statuts pour les faire. Eh bien, chers amis, retenons ces trois demandes, ces trois exhortations adressées au roi selon la pensée de Dieu dans les jours d'autrefois. Écrire une copie de la loi, l'avoir près de soi ou sur soi, et puis alors y lire tous les jours de sa vie. Voilà, chers amis, une exhortation pour chacun de nous personnellement. Un autre passage de l'Ancien Testament nous parle alors de la lecture de la parole collectivement faite au livre de Néhémie, au chapitre 8e. Nous connaissons cette scène extraordinaire où c'est le peuple lui-même qui demande à entrer en contact avec le livre de la loi de Moïse. Et il est parlé des Lévites qui lisaient distinctement dans le livre. Pendant combien de temps est-ce qu'on a lu devant toute cette nation réunie sur la place des eaux? Pendant combien de temps? Depuis l'aube jusqu'à midi, 6 heures environ. On a lu la parole, on l'a écoutée, et puis il y avait en même temps des Lévites là qui interprétaient le sens des paroles qui étaient lues et que l'on pouvait peut-être ne pas toujours comprendre. Bienheureux, dit le Nouveau Testament, en son dernier livre, celui qui lit et ceux qui gardent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont, car le temps est proche. Et on est amené ainsi tout d'abord à penser que le Seigneur Jésus vient, qu'il vient bientôt, le temps est proche, mais le temps est proche aussi à l'égard de l'éclosion des jugements divins sur ce monde, comme notre frère l'a dit en rappelant 2 Thessaloniciens 1, sur tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est proche pour nous, chers frères et sœurs, le temps est proche, le Seigneur vient, et ce même livre se terminera par la mention, 3 fois dite, « Voici, je viens bientôt ». Eh bien, qu'en attendant que le Seigneur vienne, nous puissions vraiment être, d'une part, être de ces lecteurs assidus de la parole de Dieu, comme aussi ces êtres, hommes et femmes, qui prennent la peine d'écrire tel ou tel passage de la parole de Dieu, ou telle interprétation de certains passages de la parole de Dieu. Il nous semblait que ces quelques constatations au début de ces réunions pouvaient être utiles, pouvaient même être une cause d'enrichissement, en tout cas d'édification pour nos âmes.
En cas de généralité, nous permettons d'ajouter quelques motifs pour lesquels s'occuper de la prophétie est important pour nous, les motifs pour lesquels nous avons cet enseignement-là dans l'Écriture. Nous rappelons que nos frères du siècle dernier, tout au commencement de l'histoire, l'histoire des frères, dans les années 1830 et peut-être pendant 4 ou 5 années, les frères se sont réunis pour s'occuper spécialement des sujets prophétiques. Et nous leur devons beaucoup parce que, à ce moment-là, des lumières ont été données que nous avons encore aujourd'hui, qui nous paraissent naturelles, mais à ce moment-là, même le retour du Seigneur pour enlever son Église avant la tribulation, c'était quelque chose qui était totalement méconnu dans le monde religieux. Alors, pour nous occuper de prophétie, nous avons plusieurs motifs. Nous permettons d'en énumérer au moins 6. Le premier motif, c'est que c'est Dieu qui nous communique ses pensées. Alors, on a rappelé tout à l'heure cette parole au sujet d'Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Alors, comment Dieu, nous prenons, pouvons dire, comme confident de ce qu'il va faire, nous parlons de ses intentions à l'égard du monde, et nous serions là indifférents à ces sujets en disant, eh bien voilà, je suis sauvé, tout va bien pour moi, je sais que j'irai au ciel, advienne que pourra, n'est-ce pas, je suis Je sais que Dieu a ses pensées, mais ce livre est difficile. Pourquoi m'occuper tellement de ces choses? Alors on se contente des dons de Dieu, mais entrer dans la pensée de Dieu qui veut nous communiquer son propos à l'égard de Christ et du monde, eh bien, c'est dire cela ne m'intéresse pas. C'est donc, on peut dire vraiment de l'indifférence, pour ne pas dire une offense au Dieu qui veut nous instruire. Une deuxième raison, c'est le sujet même de la prophétie. Parce que, ne l'oublions pas, la pensée centrale de Dieu, c'est toujours Christ. Alors nous avons eu sur la terre l'homme humilié, l'homme abaissé, celui qui a recommencé l'histoire de l'homme, celui qui a souffert, qui a été sur la croix dans la honte et l'ignominie. Et puis ce livre nous présente alors un autre aspect, celui de sa gloire, qui remplit déjà ce premier chapitre. Alors voilà une raison pour nous intéresser, pour nous occuper de ce qui touche à la gloire du Seigneur, même si c'est sa gloire judiciaire, le moment où il sera alors reconnu, n'est-ce pas, et où il reprendra ses droits, où celui qui a été abaissé et humilié sera reconnu de tous et proclamé Seigneur. Un troisième motif, c'est que la prophétie nous aide à nous situer et à placer chaque portion de l'Écriture dans sa juste perspective. Que d'erreurs ont été faites dans la lecture de la parole de Dieu, en appliquant par exemple les psaumes à l'Église. Et dans les psaumes, nous savons bien, nous avons beaucoup de paroles consolantes et encourageantes, mais nous avons aussi des appels à la vengeance. Et cela a été jusqu'à conduire des chrétiens, des croyants authentiques, à prendre les armes en s'appuyant sur certains psaumes. Et on peut voir qu'on fait ainsi complètement fausse route en appliquant certaines portions de l'Écriture à ce qui s'applique en fait au rétablissement du peuple juif. Il est donc important d'avoir des idées claires à ce sujet et de ne pas perdre de vue que nous sommes des croyants célestes et pas terrestres, et que nous n'avons pas à faire triompher la cause de Christ sur la terre, en ce sens de participer aux événements, de nous mêler, de nous intéresser à des circonstances auxquelles nous devons rester étrangers, comme Abraham sur la montagne, fait allusion à Abraham et à Lot, et bien justement Abraham sur la montagne, il était au-dessus de ces conflits qui agitaient les rois, n'est-ce pas, comme nous le voyons au chapitre 14 de la Genèse. Encore un motif important, et nous avons bien besoin, c'est que ce livre, l'Apocalypse en particulier, nous rappelle que Dieu aura le dernier mot. Peut-être bien découragé en voyant le mal qui progresse, n'est-ce pas, qui s'étend, en voyant que l'homme se déploie sa violence, sa corruption, qu'autour de nous, il n'y a pas de... l'homme s'agite, se démène. Il y a bien de temps en temps, n'est-ce pas, hein, quelqu'un qui est tout en haut et puis qui tombe, mais voilà, un autre surgit, et puis au milieu de toute cette agitation, alors le croyant pourrait se décourager, dire « mais enfin ». Voilà. Est-ce que Dieu se tait? Est-ce qu'il garde le silence? Ce sera, nous le savons, n'est-ce pas, le cri du résidu pendant la tribulation, jusque à quand? Et il y aura un moment où le mystère de Dieu sera terminé. Nous le trouvons dans ce livre. Et le mystère de Dieu, on comprend, c'est l'inaction de Dieu quant au péché. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne prend pas en main la cause des opprimés et ne met pas fin à cette méchanceté de l'homme? On pourrait être bien découragé. Peut-être que ces sentiments nous agitent parfois. On se dit, mais jusqu'à quand? Eh bien, ce livre nous rappelle que Dieu aura son moment. Et dans ce même chapitre, il nous est dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, l'oméga, celui qui aura le dernier mot. Celui qui mettra fin à cette haine, cette méchanceté de l'homme, qui se déploie aujourd'hui sans frein. Et c'est la fin du livre, on a fait allusion à la fin de Satan, effectivement, Satan qui sera d'abord précipité du ciel sur la terre, puis qui sera lié dans l'abîme et qui enfin sera jeté dans le lac de feu. Et le Seigneur Jésus pouvait se réjouir en esprit à un moment où le mal se développait et puis où Jean le baptiseur venait d'être ainsi mis en prison et même martyrisé. Ah, il peut dire à ses disciples, je voyais Satan jeté du ciel comme un éclair. Et le chapitre 12 de l'Apocalypse nous confirme, n'est-ce pas, que ce moment est à venir. Et puis, l'apôtre Paul, à la fin de l'Épître aux Romains, nous dit, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Quel encouragement pour nous. Cela stimule l'Évangile. Voir ces âmes qui vont au devant de ce jugement, d'un jugement tel que nous l'avons dans ce livre. Qui, quand le Seigneur Jésus sera venu, eh bien, resteront là et traverseront les moments terribles qui nous sont décrits dans ce livre. Et cela doit nous rendre sensibles au sort de ces âmes. Nous dire, eh bien, voilà, peut-être que mon voisin, peut-être que mon collègue de travail, et peut-être que mon enfant, hélas, nous sommes obligés de parler ainsi, n'est-ce pas, va rester et ne partirait pas avec nous. Est-ce que de telles pensées ne doivent pas nous stimuler quant à la venue prochaine du Seigneur? Et puis, une sixième raison, mais encore une fois, ce n'est pas limitatif. Mais la prophétie, la connaissance de l'avenir contribue à nous détacher d'un monde qui va être jugé. Si je lis ces chapitres et que je suis pénétré de l'avenir de ce pauvre monde et que je considère ce qu'il attend, ces sauts, ces trompettes, ces coupes, tout ce qui va se déverser sur cette pauvre humanité, et alors qu'il y a déjà bien des événements fâcheux, n'est-ce pas, penser qu'il y en aura de pires. Est-ce que cela ne nous détache pas d'un monde sur lequel le jugement va tomber? Et cela contribue à renforcer notre caractère d'étranger. Non pas que nous n'ayons pas des cœurs sensibles, encore une fois, mais cela contribue à nous séparer de ce monde, à nous en détacher, à nous amener à garder, à conserver notre caractère d'étranger dans ce monde. Et voilà, nous sommes en présence de... Nous ouvrons un livre qui est un livre de jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu et nous verrons ces chapitres 2 et 3 qui nous présentent l'assemblée, objet visité par le Seigneur, considéré sous l'angle de la responsabilité. Mais d'abord, et c'est infiniment précieux, nous demandons aux amis de Verviers avec lesquels nous parlions de ce sujet ce matin d'excuser la répétition, mais nous avons ce livre de jugement, il est introduit par quoi? Par ce verset 5. À celui qui nous aime. Comme pour dire, le Dieu qui juge, c'est le Dieu qui va juger le monde, c'est le Dieu qui a d'abord aimé le monde. Celui qui nous est présenté dans sa gloire judiciaire dans ce chapitre, c'est celui qui nous aime. Et celui qui parle ici, qui est l'instrument pour nous donner ce livre, Jean, n'est-ce pas, se désigne dans son évangile comme le disciple que Jésus aimait. Il parlait de ce qu'il connaissait. L'amour du Seigneur était pour lui une expérience et il peut se faire le porte-parole de tous les croyants à celui qui nous aime. Et c'est très remarquable que ce soit les croyants qui aient ici la parole. Nous savons que dans l'Apocalypse, continuellement, nous avons des anges qui sont les exécuteurs du jugement. À travers toute la, tout le livre de l'Apocalypse, vous ne voyez pas que ce soit les saints glorifiés qui versent les coupes. Ce ne sont pas eux qui embouchent les trompettes, ni qui rompent les sceaux, n'est-ce pas? Ce sont toujours des anges. Les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu en jugement. Mais quand il s'agit de proclamer l'amour, à qui la parole est-elle donnée? Aux croyants, à celui qui nous aime. Nous avons quelque chose à dire. Et l'épouse qui nous est présentée au chapitre 19, n'est-ce pas, on peut dire, ici c'est comme si elle prenait la parole pour dire, nous le connaissons, celui qui va juger, mais nous ne le connaissons pas comme le juge. Pour nous, le jugement est passé pour nous. Nous le connaissons comme celui qui nous aime et qui a fait alors ce qu'il fallait dans son amour, nous a lavé de nos péchés dans son sang, voilà ce qu'il a fait pour nous. Et puis, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, voilà ce qu'il a fait de nous, d'abord pour nous, puis de nous. Et alors à lui, soit la gloire, n'est-ce pas, nous pouvons lui rendre cette louange. Et alors, il aura la parole comme juge, mais d'abord il nous la laisse pour parler de son merveilleux amour.
En rapport avec l'un des motifs que notre frère a évoqué tout à l'heure, de la prophétie, est-ce qu'il n'y avait pas déjà cela, est-ce que ce n'était pas déjà la mission des prophètes de l'Ancien Testament d'annoncer le juste jugement de Dieu sur eux, les infidèles, afin de les ramener à Dieu, afin de les détacher du monde, de l'esprit du monde, de l'idolâtrie d'une façon particulière? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà cela dans l'Ancien Testament? Amener les âmes en Israël à revenir à leur Dieu, et alors ils annonçaient en même temps la bénédiction qui serait leur part s'ils revenaient à leur Dieu. Notre frère a aussi employé l'expression « le mystère de Dieu ». Elle mérite notre attention au moins un moment. Le mystère de Dieu, c'est une expression que nous avons deux fois dans le Nouveau Testament. La première fois dans l'Épître aux Colossiens, et la seconde fois en rapport avec ce que notre frère a dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, nous lisons ceci. Au verset 2 du chapitre 2 des Colossiens, « Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Voilà le premier passage, chers amis. Qu'est-ce donc que ce mystère de Dieu? Le docteur Rossier en a donné une explication évidemment, on peut dire absolument complète, à laquelle il n'y a rien à ajouter. Le mystère de Dieu, c'est l'ensemble des gloires de la personne de Christ, dont nous avons le tableau merveilleux au chapitre 1er. On dira le mystère de Dieu dans une épître comme l'épître aux Colossiens, l'épître aux Éphésiens, mais c'est le mystère de l'Assemblée. C'est alors que le docteur Rossier dit, oui, c'est le mystère de l'Église, c'est le mystère de l'Assemblée, mais c'est autre chose encore, quelque chose de supérieur, l'ensemble des gloires de Christ, qui aime son Église, qui aime son Assemblée, l'ensemble des gloires de Christ, dont nous avons le tableau au chapitre 1er. On sait que on a parlé quelquefois en rapport avec les gloires de Christ, les divers tableaux que nous avons de ces gloires. On a parlé de sommités, des chapitres qui étaient comme des sommités dans le Nouveau Testament. On a cité Jean 1, on a cité Colossiens 1, on a cité Hébreux 1 et on a cité Apocalypse 1. On a parlé des quatre sommités du Nouveau Testament. Pourquoi les sommités? Parce qu'elles présentent ce qu'il y a de supérieur, de suprême, les gloires même de la personne de notre Seigneur Il n'y a pas de sujet plus élevé, chers amis. Il n'y a pas de sujet plus enrichissant que celui-là. Le sujet des gloires de la personne de Christ. Alors le deuxième passage où il y a cette expression, le mystère de Dieu, est en rapport avec ce que notre frère a dit quant au découragement qui pourrait nous surprendre en voyant le débordement de mal dans ce monde. Les hommes sont capables de tout le mal possible, jusqu'à une destruction totale du prochain. On est effrayé, on pourrait être découragé, alors... comme si Dieu passait par-dessus tout le mal qui se fait sur la terre et ne s'en préoccupait pas beaucoup. C'est pas très respectueux de parler comme cela, chers amis. Mais qu'est-il dit en Apocalypse 10, le deuxième passage où nous avons cette expression, le mystère de Dieu? Nous sommes obligés de lire la linéa. Au verset 5 du chapitre 10, l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Le mystère de Dieu, chers amis, sera un jour terminé. Quel est ce mystère de Dieu? Eh bien, c'est ce qui nous paraît si mystérieux, qu'il y ait tant de mal dans le monde et que Dieu est là, constatant tout le mal qui se fait, et il semble que Dieu n'intervient pas. Dieu laisse aller les choses, il laisse ces flots de mal s'écouler, il semble que Dieu ne s'en préoccupe pas. C'est cela qui est mystérieux, cela est le mystère de Dieu, mais ce mystère un jour sera terminé, chers amis. Et nous sommes peut-être plus près du jour où véritablement Dieu interviendra et jugera alors, comme il se doit, le mal qui s'accomplit sur la terre. Le mystère de Dieu aussi sera terminé. Alors voilà le sujet d'une bonne nouvelle, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Nous disons encore un mot en rapport avec ce mystère de Dieu, en rapport avec le mal qui se déverse sur la terre. Un verset du psaume 119 auquel nous ne pensons pas souvent. Il a fallu véritablement lire attentivement ce psaume bien des fois pour être arrêté par ce verset. Au psaume 119, et c'est le verset 126, il nous est dit ceci, psaume 119, verset 126, « Il est temps que l'Éternel agisse. » Pourquoi ? Deux points. Ils ont annulé ta loi. Non seulement ils ont méprisé ta loi, non seulement ils n'en ont rien fait du tout, mais ils ont fait comme si elle n'existait pas. Ils ont annulé ta loi, la loi très juste, la loi très sainte de Dieu, ils ont annulé ta loi. Eh bien maintenant, semble dire l'auteur du psaume, il est temps que l'Éternel agisse. Et c'est ce que nous disons. Et peut-être, dans une période de découragement, pour employer l'expression de notre frère tout à l'heure, en voyant tout ce mal qui se déverse sur la terre, nous nous disons, c'est quand même le moment. Il est temps que l'Éternel agisse. Eh bien, ce temps vient. Ce temps viendra. Alors, le mystère de Dieu sera terminé. Il sera consommé, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Eh bien, chers amis, il est temps que l'Éternel agisse. Et nous sommes persuadés que chacun, chacune ici, du fond de notre cœur, nous disons cela. Nous tenons ce propos du psalmiste. Il est temps que l'Éternel agisse. Pourquoi ? Les hommes sont en train, pas seulement de mépriser la loi de Dieu, mais de faire comme si cette loi n'existait pas. Nous ne voulons pas prendre trop de temps, chers amis. Nous nous asseyons maintenant, mais plus tard, quand d'autres frères se seront exprimés, nous aimerons dire encore un mot sur ce magnifique passage qui a ému notre frère tout à l'heure, cette doxologie, la dernière du Nouveau Testament, à celui qui nous aime.
Peut-être que ici, un jeune homme, une jeune fille se dit, mais quand je me promène, quand je vis tous les jours et je vois le monde autour de moi, on me dit qu'il est mauvais, on me dit qu'il est dangereux et pourtant il m'attire. Et donc, un jeune homme, une jeune fille peuvent être ainsi attirés par le monde et par les choses qui brillent dans ce monde. Mais quand on lit la prophétie, j'aimerais simplement souligner un peu ce qui a déjà été dit, mais quand on lit la prophétie, on voit comment Dieu voit ce monde et ce qu'il va juger dans ce monde. Je me souviens quand j'étais jeune homme, en lisant les passages de la prophétie, de l'Apocalypse, je me disais, vraiment c'est très dur. Quand on lit les jugements qui tombent sur ce monde, on se disait, mais vraiment c'est très dur. Et puis les années passent, et puis le monde évolue aussi sous nos yeux, et effectivement on se dit, mais jusqu'à quand Dieu va-t-il supporter ces choses-là? Alors, il y a ce verset, le temps est proche. Le temps du retour du Seigneur est proche, le temps du jugement est proche. Et au début de ces réunions, peut-être qu'il faut alors rappeler à ceux qui sont là, peut-être qu'ici quelqu'un n'est pas prêt. Peut-être qu'ici quelqu'un n'est pas prêt, n'a pas réglé, n'est pas venu au Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus n'est pas son sauveur. Bientôt, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers le Seigneur. Et puis, pour nous maintenant qui vivons aussi sur la terre, celui qui nous est présenté là, c'est le témoin fidèle, Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et il est question de rendre témoignage la parole de Dieu, de rendre le témoignage de Jésus-Christ. C'est aussi maintenant pour nous, dans ce monde, le temps de rendre le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. D'être des témoins à la suite du témoin fidèle, parce que le temps est proche. C'est pour cela que, au verset 6, il est dit, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Et parfois, quand on lit ce passage, on le comprend un peu comme ce qu'il y a dans Apocalypse 5. Tu les as fait rois et sacrificateurs. Et on est peut-être un peu trompé aussi par le cantique que l'on chante, et tu nous fais pour Dieu ton Père et roi et sacrificateur. Ce qui est écrit là, il a fait de nous un royaume, son royaume, aujourd'hui sur la terre, ceux qui lui obéissent et qui sont ses témoins, et des sacrificateurs pour son Dieu et Père, aujourd'hui des adorateurs sur la terre pour son Dieu et Père, ceux qui obéissent à notre Dieu et Père, ceux qui lui sont soumis dans un monde qui va être jugé, et ceux qui adorent déjà, qui sont déjà des sacrificateurs pour son Dieu et Père, dans un monde qui va être jugé.
C'est donc extrêmement important de chanter des cantiques quand on n'appartient pas au Seigneur, qu'on nous permette de rappeler ce qu'un vénéré frère, bien connu en Belgique, Samuel Prodon, nous disait à nous-mêmes, petit jeune homme que nous étions, ayant lui-même, une quarantaine d'années, assisté à une réunion qui était donnée à Genève par M. Darby. Il avait indiqué au début de cette réunion le cantique 86, « Je la connais, cette joie excellente ». Et nous entendons encore, nous voyons encore l'émotion de notre frère qui nous parlait de cela, parce que les frères, soutenant le chant habituellement à Genève, étaient absents, pour des raisons majeures certainement, et c'est IGND lui-même qui a commencé le chant et qui a soutenu le chant de ce cantique 86, je la connais, cette joie excellente. Et alors, d'ajouter ceci, s'adressant, comme notre frère vient de le faire maintenant, s'adressant à toute l'assistance, vous rendez-vous compte du sérieux qu'il y a d'oser chanter un cantique semblable, je la connais, cette joie excellente, et vous êtes un converti, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes jamais venu à lui pour reconnaître votre état misérable, mort dans vos fautes et dans vos péchés, mais vous vous présentez le mensonge que vous exprimez en chantant ainsi. Je la connais, cette joie excellente, et c'est pas vrai du tout, vous connaissez pas le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la source de toute joie et surtout de toute joie excellente. Vous ne le connaissez pas. C'est quand même très sérieux de chanter des cantiques sans être au Seigneur. Et il me semble qu'il y a là un point sur lequel on devrait peut-être insister davantage. Nous mettons aussi en garde contre les habitudes que l'on a. On chante des cantiques, ce cantique est indiqué, nous chantons. Et personnellement, on n'appartient pas au Seigneur. Vous ne trouvez pas que c'est sérieux, cela? Et nos frères évangélistes qui nous ont parlé à cet égard, eh bien, l'un des frères qui, de ce pays même, Maurice Capel, eh bien, s'adressait d'une façon extrêmement solennelle aux âmes qui osaient chanter de tels cantiques sans connaître le Seigneur Jésus pour leur sauveur personnel. Nous disons encore un mot sur cet admirable passage, la doxologie à celui qui nous aime. Fin du verset 5, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Alors, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Il y a, chers amis, dans le Nouveau Testament, très exactement 14 doxologies. 2 × 7, comme une double plénitude de la louange parfaite dont notre Seigneur est digne. Nous parlons pas des nombreuses doxologies de l'Ancien Testament, bien entendu, le livre des psaumes en est rempli. Nous parlons du Nouveau Testament, et la première de ces doxologies, que veut dire ce mot doxologie? Doxologie, un mot grec qui veut dire parole de gloire. Parole de gloire adressée soit à Dieu, soit à notre Seigneur. La première que nous trouvons est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11e. Le passage connu de chacun. En Romains 11, nous lisons ceci, verset 36, le dernier verset. De lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Voilà cette parole de gloire, à lui soit la gloire éternellement. Voilà ce qu'est la vraie doxologie. Et alors, nous en trouvons plusieurs au cours des épîtres pour arriver alors au livre de l'Apocalypse, à notre passage, la 14e doxologie du Nouveau Testament. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, à lui la gloire. Voilà la doxologie, la parole de gloire. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, ce n'est pas le moment d'entrer dans le détail d'un tel sujet, si élevé soit-il, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce sujet des doxologies du Nouveau Testament, des frères de certaines assemblées dans notre pays, en Suisse romande, ont été amenés à le proposer comme sujet d'étude. Et nous pouvons dire que chaque fois que nous avons assisté à de telles réunions d'études, il y en a eu plusieurs sur ce sujet des doxologies, chaque fois il y a eu enrichissement de l'âme des auditeurs. On est enrichi par un tel sujet. Certainement qu'on doit être conduit par le Seigneur pour choisir ou proposer un tel sujet, mais nous serions heureux que les frères prennent à cœur cela. Le choix d'un tel sujet, les doxologies du Nouveau Testament. On est amené tout près du Seigneur et on ne cesse de lui rendre gloire en lisant ces différentes doxologies jusqu'à notre chapitre premier de l'Apocalypse. Il vaut la peine, et les frères qui ont été amenés à proposer ce sujet-là comme sujet de réunion d'études n'ont jamais été déçus, bien au contraire. Édifié et largement enrichi.
Encore quelques mots sur cette doxologie. On s'adresse donc à celui qui nous aime, et seuls les rachetés peuvent ici prendre la parole, et nous y souscrivons pleinement, n'est-ce pas? Mais l'amour, nous le remarquons, est au présent. L'amour est à la base de tout ce qui vient ensuite. Mais l'amour est au présent. Il nous a aimés avant les temps des siècles. Il nous a aimés quand il est mort sur la croix pour nous. Mais il est encore celui qui nous aime. Nous sommes aimés présentement, comme la fin du chapitre 8 des Romains nous le rappelle. N'est-ce pas? Qui est-ce qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Et puis son amour est éternel. C'est un éternel présent. Et c'est la source, cela vient avant, il nous a lavés. Il nous a aimés alors que nous étions encore dans notre souillure. Mais il a fait pour nous ce qu'il fallait. L'amour n'est pas resté dans un sentiment abstrait, dans le cœur du Seigneur, mais comme nous l'avons dans la première épître de Jean, n'est-ce pas, il nous a dit par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Il nous a lavés parce qu'il nous aime. Et ce n'est pas l'inverse. Et il nous a lavés, c'est une œuvre accomplie. Nous excusons encore une fois de répéter quelques pensées émises ce matin même à Verviers. Et puis, il ne s'est pas contenté de faire une œuvre pour nous, en notre faveur, mais il y a ce qu'il a fait de nous, un royaume des sacrificateurs. Donc, il nous a constitués ainsi des adorateurs pour son Dieu et Père. C'est l'application de Jean 4, n'est-ce pas? Le Père en cherche de tels qu'il adore, et il les a cherchés par le Fils qui est venu pour cela. Mais insistons sur l'ordre dans lequel nous avons ces différents verbes. Parce que dans la chrétienté, on le sait, on pense pouvoir être sacrificateur et adorer sans avoir passé par l'œuvre qui nous lave. Sans être lavé de ses péchés, quel outrage à Dieu, n'est-ce pas cela? Alors on pense pouvoir être adorateur, s'ajouter à un ensemble de personnes qui prennent une position religieuse là, sans avoir d'abord passé par l'œuvre qui lave des péchés. Et c'est le sang de Jésus, seul le sang de Jésus, qui peut laver un pécheur de sa souillure. Et cela, cet ordre que nous avons ici, n'est-ce pas, nous rappelle encore une chose, c'est que tous ceux qui ont été lavés de leurs péchés sont sacrificateurs. Ça met de côté tout clergé. Ce n'est pas une certaine classe de personnes comme en Israël. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs appartenant à deux tribus différentes. Mais ici, tous les croyants, tous ceux qui ont été lavés de leurs péchés sont de plein droit constitués tels. Et ça donne occasion d'un petit appel à ceux qui savent que leurs péchés ont été lavés dans le sang de Jésus et qui restent en arrière, peut-être pour prendre leur place à la table du Seigneur, pour être de plein droit ces adorateurs qui commencent sur la terre une louange qui continuera pendant l'éternité.
Sans épuiser le sujet, sur ce qui est donné comme le nom, les noms du verset 4. Tout d'abord, nous avons celui qui est, qui était et qui vient. C'est un nom qui n'est pas usité dans le Nouveau Testament. C'est le nom, nous l'avons bien compris, en relation avec l'Ancien Testament, avec l'Éternel, duquel il est dit au psaume 68, verset 4, par exemple, « Chantez à Dieu, chantez son nom. » Il est bien évident qu'il s'agit de Dieu, celui qui était, celui qui est, qui vient. C'est un nom de notre Dieu. « Chantez à Dieu, chantez son nom. » Son nom est Jah. Et à la note, nous avons le diminutif de Jéhovah, c'est-à-dire l'Éternel dans son essence, dans son nom absolu. C'est un nom qui a été introduit dans des conditions particulières, nous allons dire deux mots rapidement. Tout d'abord, nous rappelons que celui qui était, celui qui est, qui vient, autrement dit l'Éternel, est un nom qui n'existe pratiquement que dans notre langue pour désigner Jéhovah. Et nous faisons appel à Exode 6, le traducteur donc met entre parenthèses Jéhovah lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel ». Moïse, en effet, qui s'adresse au peuple, a bien de la peine à identifier celui qui l'envoie. Il demande à Dieu « Mais que vais-je dire? Comment vais-je t'appeler ?» Et l'Éternel lui dit « Eh bien, tu lui diras « Je suis ». L'Éternel, ou Jéhovah, est donc le présent du verbe « être », un présent perpétuel. « Je suis » ou « Je suis celui qui le fera arriver ». Exactement. Je suis ce que j'étais ce que je serai, je suis ce que j'étais, je suis ce que je serai, le temps ne compte pas pour Dieu. C'est un nom difficile, c'était d'ailleurs un nom impossible. L'autre jour, avec notre frère, nous avons un peu abordé cette question, c'était un nom impossible à prononcer. Il est en effet, c'est un tétragramme, dit-on, comme on l'appelle, il est composé tout d'abord de 4 consonnes. Il est impossible de prononcer 4 consonnes à la suite des unes des autres. Et les Juifs, autrefois, prononçaient le nom, mais on a perdu la connaissance de cette manière de prononcer le nom. Elle a été perdue après la captivité, parce qu'il paraît que les Juifs ne prononçaient qu'une fois l'an le nom de Dieu, l'Éternel, Jéhovah, qu'en sortant du sanctuaire et en bénissant l'Éternel, que l'Éternel te bénisse. C'était la seule fois, la seule occasion où le souverain sacrificateur prononçait le nom de 4 consonnes, mais on ne sait pas avec quelle voyelle. C'est Galatinus, un juif converti au 15e siècle, qui a imaginé, qui a trouvé l'occasion, la possibilité d'introduire les voyelles d'Adonai au milieu, les incorporer aux consonnes de Javé, qu'on ne peut pas prononcer bien sûr, et ce qui nous a donné Jéhovah. Mais en fait, c'est un nom ineffable. C'est le nom, non pas seulement de la prééminence de Dieu, comme Elohim, au commencement, Dieu, Elohim, mais c'est Dieu dans son essence absolue. C'est le nom de notre Dieu qu'il prend en fidélité absolue à l'égard des promesses qu'il a faites à son peuple. C'est à partir de Genèse 2, lorsqu'il est question du peuple, que nous avons alors l'Éternel Dieu. Non plus l'Éternel, comme au chapitre 1er, pour proclamer sa toute-puissance, au commencement, Dieu, dans toute la majesté de son être, créa, le verbe est au singulier, alors que le sujet est en fait au pluriel, Dieu. Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Tandis que dans le chapitre 2, nous avons alors l'Éternel Dieu. Eh bien, c'est le nom que nous avons ici, l'Éternel, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est-à-dire celui qui a non seulement la prééminence sur toute chose, mais qui affirme l'essence de son nom, son immuabilité à l'égard de toutes les promesses qu'il a faites. Nous avons donc, dans ce verset que nous avons lu au psaume 68, nous avons un autre verset important au psaume 98, nous allons le lire rapidement en terminant la mention de ce que nous avions à dire sur ce sujet, au psaume 98, au verset 6, il s'agit du cantique nouveau qui sera chanté demain lorsque le Seigneur va prendre en main toutes les choses, chanter un cantique nouveau car il a fait des choses merveilleuses, c'est son apparition, c'est la défaite de tous ses ennemis et c'est l'établissement du royaume de paix et de justice au milieu duquel son peuple aura une place centrale. Et nous lisons au verset 6, pour célébrer ce fait, avec des trompettes et le son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. L'Éternel, celui qui a fait des promesses, est celui qui est le roi et qui va donc accomplir toutes les circonstances, toutes les dispositions pour leur donner un plein effet. Encore un mot, la parole de Dieu ne se répète pas d'une manière banale. Vous avez dans le verset 4 que nous citons, la mention de celui qui est, celui qui vient au chapitre, alors nous avons encore au chapitre 4, verset 8, la même chose. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Donc, c'est ce qu'il est éternellement. Il était, il est et il vient. Nous lisons encore une fois cette mention dans le chapitre 11, verset 17. Il y en a d'autres, mais nous écourtons. Chapitre 11, verset 17, et vous allez voir, il y a une différence notable. Pourquoi ? Chacun doit se rendre compte que c'est un verset charnière dans l'Apocalypse et qu'il n'est pas question de rendre le nom de notre Dieu, l'Éternel, de la même manière qu'au chapitre 1er. Au verset 17, nous avons « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était. » Et tout à coup, nous n'avons plus la mention « celui qui vient ». Pourquoi ? Relisons le verset. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. » En fait, celui qui vient a accompli les promesses qu'il a faites et il n'est plus nécessaire de prononcer cette particularité de son nom. Il est là pleinement manifesté, pleinement magnifié dans les choses qui sont entrées, qui sont incorporées dans le règne qu'il a établi. Sauf que nous avons dans ce cas celui qui était, celui qui est, et puis il n'y a plus besoin de dire celui qui vient, il est venu.